Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Flash Lecture du Monde, deuxième épisode de cette mini-série en parallèle des séries d'interviews un peu plus classiques. Et vu qu'on est sur l'été, on a fait une petite pause sur les interviews, ça va reprendre bientôt. Là je vais faire l'interview de la saison 2 directement demain, je vais aller voir Flavien Charvet, je vous en dirai plus et bien prochainement, l'épisode sortira certainement pour la rentrée. Mais en attendant, continuons cette petite série de lecture du monde, donc des épisodes un petit peu plus courts, qui vont aller toucher des sujets de curiosité un peu plus centrés sur l'actualité et sur ce qui se passe actuellement. Alors là, bien entendu, c'est l'été, on est un petit peu dans une pause, mais c'est intéressant de pouvoir utiliser cette pause pour pouvoir lire un petit peu ce qui se passe dans le fond et en discerner un petit peu ce qui va se passer peut-être dès la rentrée. Voilà. Donc je vous dis pas qu'on va lire l'avenir, mais en tout cas, cette lecture du monde vous propose une fenêtre de lecture par laquelle vous pourrez passer, explorer vous aussi, et j'espère m'en ramener à moi votre propre lecture du monde. Je vous laisse directement profiter un petit peu de cette analyse, voilà, de ce monologue au final, qui j'espère sera nourrissant, intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous entendez derrière, il y a le tonnerre. Ça ne fait pas peur, mais en tout cas, ça ne rassure pas non plus. Allez, c'est parti, on se lance. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture du monde là pour ce mois d'août 2019 par mon spectre de lecture d'ici, de Lyon, de France. Alors, je vais vous partager un petit peu des explorations comme ça en vrac. Vous pourrez picorer un petit peu à droite à gauche. Il y aura des éléments qui viennent aussi de la newsletter de Nouvelle Porte. Donc, pour ceux qui la suivent, ça vous fera peut-être des redites, mais peut-être analyser différemment. Donc, allons-y directement. Déjà, je commencerai, je pense, par un livre que j'ai découvert grâce à une personne rencontrée il y a quelques temps. Et j'adore, du coup, ces découvertes-là, parce qu'en fait, c'est des rencontres qui font que quelqu'un va avoir une lecture, d'ailleurs, sur vous, sur ce que vous êtes en train de faire, sur quoi vous êtes sensible, là, vous êtes curieux. Et puis, il va, du peu qu'il connaît de vous, à un moment donné, trouver quelque chose que vous avez écrit et se dire, tiens, je vais lui envoyer un mail et puis je vais lui demander son adresse et je vais lui envoyer un livre. Et il m'a envoyé un livre en me disant que c'était le moment pour que je lise et que ça allait me plaire. Et au final, je ne l'ai pas lu tout de suite. J'ai attendu là, il y a 2 semaines. Et puis au final, je me suis jeté dessus, comme si c'était le bon moment. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait. Mais des fois, il y a des livres comme ça, ou même des choses qu'on doit faire, qu'on se dit, bien ouais, il faut que je les fasse, je vais les garder là. Et puis un jour, on sait que c'est le bon moment, et on se jette dedans, et ça ne manque pas. Et là, ce livre, je l'ai dévoré, en 3 jours, je l'ai terminé. Et pour autant, ce n'est pas un livre d'aventure, ce n'est pas, par exemple, je ne sais pas, Furtif, le dernier de Damasio, qui, je pense, est à lire aussi. Celui-là fait partie de ceux que je vais lire prochainement. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à en faire des retours, mais je pense qu'il était super intéressant, donc ce livre de science-fiction, justement sur un peu d'anticipation de demain. Mais si j'arrête un peu les digressions et que je reviens sur ce livre s'appelle « La thermodynamique de l'évolution », même la thermobiodynamique de l'évolution, liée aussi à de la sociologie de l'évolution. Et là, vous me dites, oula, ça va être compliqué. Et en effet, c'est quand même un peu technique, parce que ce bouquin mêle des analyses faites par un physicien qui va utiliser les connaissances en thermodynamique. Donc, c'est tout ce qui est la dynamique des systèmes, la dynamique des fluides, l'échange de fluides, la circulation des fluides. Donc, quelque chose de très physique et de très concret sur l'énergie, par exemple. Les personnes qui travaillent dans tout ce qui est énergie, flux d'énergie, utilisent la logique de la thermodynamique. Les personnes qui analysent les flux de chaleur aussi, voilà. En même temps, il utilise donc ce langage et cette connaissance scientifique-là en parallèle de la physique plus orientée, physique technique, gravité, voilà, un peu plus classique. En même temps avec le langage et les connaissances de la biologie, en même temps avec le langage et les connaissances de la sociologie et de l'anthropologie. Et en mélangeant tout ça, en fait, il fait un peu une analyse de notre société, des êtres humains, de son évolution, de l'évolution de l'histoire. Et voilà, ça fait une espèce de grosse recette comme ça, qui au fur et à mesure du livre prend de plus en plus en conséquence, et il y rajoute un peu ses analyses et ses anticipations justement sur ce que lui voit comme évolution pour notre humanité. Donc là, en termes de lecture du monde, on a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'en fait, pour ceux qui ont aimé Sapiens aussi, le bouquin de Harari, donc ça, c'est un point de vue vraiment anthropologique sur notre espèce, les Homo sapiens, et sur son évolution et son histoire, pour comprendre ben, pourquoi on en est là par le chemin qu'on a fait jusqu'ici, par les choix qu'on a fait jusqu'ici, point de vue global justement sur notre société. Bon, bah voilà, on se retrouve à être un petit peu sur le même penchant que Harari, par un point de vue plus scientifique et plus technique, par le point de vue de la thermodynamique. Et on comprend des choses et ça modifie des perspectives un petit peu de comment on voit justement notre société, les êtres humains, les interactions entre eux. Je ne m'étendrai pas en détail et je vous invite vraiment à vous jeter dessus, à le lire. Mais par la physique, la biologie, la sociologie, et par l'étude de notre histoire et de notre évolution, on arrive à se rendre compte qu'au final, peut-être, on est vraiment juste de l'énergie. Voilà, moi, je suis de l'énergie. Cette énergie, eh ben, je vais la partager avec d'autres gens avec desquels je suis socialement proche, avec lesquels je vais faire des activités, des choses. Je vais la partager quand je vais aller dans des entreprises, quand je vais aller faire des activités, de la musique. Là, quand je suis en train de vous parler sur un podcast à distance, je suis en train aussi de partager mon énergie, même de manière asynchrone d'ailleurs, parce que vous m'écoutez pas au moment où je vous parle, voilà. Peut-être que je peux vous faire vivre des choses, peut-être que ça vous fera bouger dans un sens ou dans un autre, explorer des choses. Bref, voilà, tout est énergie, et tout est énergie qui est au final un peu reliée, et on n'a pas l'impression qu'on a une grosse impact à échelle individuelle, mais en même temps, c'est toutes ces multi-petits impacts, multi-petits mouvements d'énergie qui fait qu'on a un mouvement global et tout bouge continuellement. Et il y a des phases de société et des phases de vie où c'est très agité, où c'est très chaotique, d'autres phases où c'est beaucoup moins agité, beaucoup plus stable. Et en fait, il explique justement par la logique de la thermodynamique que c'est aussi une logique de circulation d'énergie, qu'il y a des énergies lourdes, des énergies légères, des énergies chaudes, des énergies froides, que tout ça se mélange, s'aligne. Et que dans l'évolution de l'humanité, en fait, si on retrace par rapport aux trois principes de la thermodynamique, en fait, on arrive à comprendre bah, pourquoi on est passé par les différentes étapes, pourquoi est-ce que l'Empire romain s'est effondré, pourquoi est-ce que là, notre société actuellement est sur une espèce de pic d'évolution ultra rapide pour au final arriver sur quelque chose qui sera beaucoup plus stable. En plus de ça, ce livre porte une vision très intéressante de l'avenir et une vision très optimiste. Et je pense qu'elle vous plaira. Voilà, il y a toute une logique de se dire que voilà, nous sommes tous des individus, des individualités, des petits bouts de cette énergie, et qu'on est en train de comprendre qu'en fait on est tous reliés, et que donc notre cerveau, se connectant au cerveau des autres via Internet, via cette conscience qui s'éveille, arrive à se retrouver à être connecté pour ressembler à un cerveau global, le cerveau de notre planète. Et je citerai juste une partie du livre que j'ai trouvé assez jolie, c'est lorsqu'il parle de nos gènes, en fait, parce qu'il part vraiment de la base, en fait, des gènes, des bactéries, et pour parler de l'origine de la vie, justement, pour voir toute l'évolution depuis le début. Et en gros, il explique, voilà, notre corps, nous, les humains, on est des véhicules pour nos gènes. Parce que nos gènes, c'est l'information de la vie qui se réplique, qui rebondit contre d'autres informations, qui se modifie, qui mute, pour arriver à créer d'autres formes de vie. Et en fait, le but du jeu, c'est que cette information se diffuse, et cette information se complexifie au fur et à mesure. Et voilà, du coup, la vie serait de l'information qui, par rebond contre d'autres bouts d'informations, crée encore d'informations et se multiplie. Et nos gènes, en gros, c'est une souche d'informations qui se sert quelque part de nous, humains, comme véhicule, pour arriver à continuer à se diffuser, que ça ne s'arrête pas. Cette logique un peu de l'évolution, le côté un peu darwinien de l'évolution. Et en même temps, nous-mêmes, nous utiliserions bah, notre humanité, un peu notre société globale, ce cerveau global, un peu comme un véhicule aussi, comme si nous-mêmes on était des gènes et qu'on devait répercuter des choses. Et en fait, il fait un parallèle très intéressant entre l'information qu'on a dans les gènes et l'information qu'on a dans notre culture. Et il explique qu'en fait, l'information qu'il y a dans les gènes est un type d'information et que la culture est un autre type d'information. Et que là maintenant, à l'époque de notre humanité, l'évolution ne passe plus que par une évolution descendante type reproduction de gènes reproduction classique et mutation, mais aussi par une reproduction de culture, d'idées, et que c'est la culture qui fait créer une évolution en fait aussi. Et ça, c'est super intéressant. Bref, voilà, c'est un peu technique, mais en tout cas, là, je vous en ai assez parlé, et je pense que vous pourriez aller dans le thermodynamique de l'évolution, que je vous invite à découvrir. Donc, pour un livre. Autre élément qui m'a amené à pousser un petit peu mon analyse pour ce mois-ci sur cette lecture du monde, c'est un petit peu ce qui se passe du côté de Facebook. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais Facebook a annoncé la création d'une monnaie qui s'appelle le Libra. Voilà. Alors son ancien nom, c'était Global Coin. Global Coin, donc vraiment, là on voit un peu toute la modestie de Mark Zuckerberg à se dire, je vais créer une monnaie, la monnaie globale, quoi, la monnaie de la planète. Puis au final, qui est devenue Libra, donc encore mieux, c'est une monnaie qui est là pour libérer justement l'économie. Et la volonté de cette monnaie, pour le moment, c'est qu'elle est censée être indexée sur l'euro, mais par contre, elle est connectée à énormément de partenaires de Facebook. On a Visa, on a Uber, on a Spotify, voilà, plein de firmes différentes et complémentaires en termes de services et de produits qui pourraient être connectés sur cette monnaie. Et là où c'est très intéressant de voir ce type d'annonce, c'est pour se rendre compte que là, on a quand même un Facebook qui a envie d'essayer de globaliser un petit peu un nouveau modèle de société et surtout un nouveau modèle d'économie. Parce que si ils arrivent à créer un attrait pour cette monnaie et que les gens commencent à utiliser cette monnaie et qu'ils ont plus d'intérêt à l'utiliser parce que par exemple en utilisant Libra vous avez des réductions pour votre Uber Eats quand vous commandez chez vous ou quand vous postez un article sur Facebook vous gagnez des Libra qui vous permettent d'acheter de la nourriture sur Uber Eats. Et bien là on rentre vraiment dans une démarche économique complètement différente, une démarche de partenariat qui est complètement différente basée sur une monnaie complètement différente qui au début est indexée sur l'euro et puis au bout d'un moment, bien entendu, ils pourraient choisir de la désindexer lorsqu'il y a vraiment un attrait pour cette monnaie. Et là, du coup, on pourrait commencer à avoir une monnaie globale qui ferait concurrence à la monnaie globale actuelle qui est le dollar. Et donc, un petit peu commencer à challenger un peu les géants du contrôle économique de notre planète, que sont les banques centrales. Donc voilà, il y a l'air d'avoir des petits jeux comme ça qui sont en train de se mettre en place. Du côté de la Chine, c'est un peu pareil. Il y a eu une réaction par rapport à cette annonce de Facebook qui présage aussi d'un travail sur des crypto-monnaies, d'un travail sur des monnaies alternatives. Et là où on voit où ça peut être très puissant, c'est que la Chine a une grosse activité actuellement en Afrique, avec Huawei par exemple, qui diffuse du matériel pour aider les Africains à diffuser à créer, à diffuser leurs activités entrepreneuriales. Donc vous imaginez bien que quand vous donnez les outils aux gens pour qu'ils puissent créer une activité économique, derrière après vous avez une certaine forme de contrôle sur eux. Surtout quand ces outils sont des outils à la fois matériels et des outils à la fois numériques, que dans l'outil numérique, eh ben, c'est là où vous allez mettre toutes vos informations et que vous allez structurer votre activité, et que si demain on vous dit ben, on arrête, on vous reprend tout parce qu'on vous y a donné, et que vous dites ben, non, ben, à ce moment-là, vous n'aurez que le choix que de suivre en fait un peu ce qu'on va vous dire. Soit on va vous dire de payer pour ces services, soit on va vous dire ben, ne payez toujours pas, mais par contre vous nous donnez l'information qu'il y a dessus et nous on en fait un peu ce qu'on en veut. Ou soit on va nous vous indiquer un petit peu des contraintes ou des choses que vous allez devoir faire. Donc voilà, il y a cette lecture un petit peu là aussi du jeu qui est en train de se passer, des grandes puissances, que ce soit la puissance étatique un peu totalitaire de la Chine ou la puissance économique des grandes firmes qui au final étaient anciennement dans le numérique et qui maintenant sont en train de revenir dans le monde réel. Ça aussi c'est une lecture du monde intéressante, c'est de se dire voilà, la course n'est plus en train de se faire dans le numérique et sur le web, la course maintenant revient à se faire dans le réel. Vous pouvez voir aussi des cas de Google qui par exemple prennent au Canada des directives pour de la construction de quartiers. Donc, ça veut dire que Google va prendre la direction de chantiers, d'architecture, de choses comme ça. Alors que, bon, à l'origine, ça n'a rien à voir. Et tout l'intérêt de Google à co-construire avec des villes, des quartiers, c'est que derrière, ils les équipent aussi numériquement pour récupérer toute la data qui va partir dans leur machine learning, donc tout leur support d'intelligence numérique qui leur permet de capitaliser sur toute la donnée, et cette donnée analysée et structurée à l'intérieur de Google leur permet d'avoir un peu une, eux pour le coup, une lecture du monde très très précise. Donc voilà, il y a un jeu de contrôle comme ça qui est en train de se passer, et si je vous donne mon ressenti à moi, vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est une vraie guerre froide, une vraie guerre froide économique, une vraie guerre froide de pouvoir qui se joue vraiment entre des grandes puissances. Et puis nous, on est un petit peu là au milieu et on voit un peu ce qui se passe, mais de très loin. Et même quand on a la tête dedans, comme ce que je vous partage ici, on ne sait pas trop quoi en faire parce que d'un côté, on se sent un peu impuissant dans cette complexité. D'un autre côté, on se dit, ben, si on collabore avec plein d'autres gens, on va pouvoir faire des trucs. D'un autre côté, on se dit, ben, en fait, non, on ne peut rien y faire, on ne va pas se prendre la tête, on va plutôt aller faire notre truc dans notre coin. Donc on peut se dire qu'on retourne à la campagne, on va se trouver notre maison et puis on se met dans des choses simples. Mais en même temps, le monde à côté, lui, bouge très vite. Et la volonté de contrôle aussi est là. Et voilà. Je sais pas trop où vous laisser avec cette lecture du monde-là. Mais en tous les cas, l'idée, ça serait d'être vigilant quand même. De continuer à observer ce qui se passe pour ne pas, à un moment donné, être surpris de se dire, tiens, là, je me rends compte que je ne suis plus du tout dans le monde que j'imaginais être. Et je ne comprends plus du tout comment ça marche. Et d'être complètement largué au final. Parce que un dernier point lié à ça, par exemple, là, ça fait depuis quelques temps qu'on sait que 50% du vignoble français est détenu par les Chinois. Parce que ça a été racheté. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment autant de vin qui appartient aux Chinois que de vin qui appartient aux Français. Donc un élément de notre culture, si je reviens au livre dont je parlais avant. Un élément de notre culture aussi fort, du coup, n'appartient plus en termes de propriété à des personnes françaises. Donc il y a vraiment tout un jeu aussi de guerre sur la culture et d'appropriation d'une culture et d'un pouvoir économique. Voilà. Voilà, je m'arrêterai là pour cette partie de lecture du monde un peu lourde, peut-être. Mais en tout cas, je reste assez positif par rapport à l'évolution, parce que je sais qu'au final, ce qui compte, c'est l'être humain et c'est ce qu'on ressent chacun et les choses simples qui sont ben, de partager autour de nous, de donner de l'amour, de donner de l'attention, de prendre le temps d'être là pour les autres. Et je sais que ça aussi, c'est en train d'émerger, ça bouge. Et donc, ça sera mon dernier point de cette lecture du monde, c'est ben voilà, on est au mois d'août. On se rend bien compte qu'il y a tout le monde qui part un petit peu faire bronzette à droite à gauche ou qui part faire une reconnexion avec la nature. Et la semaine dernière, j'ai pu profiter aussi d'une semaine où je suis allé à Grenoble et je suis allé me mettre dans la forêt, faire un peu de randonnée et puis aussi juste des fois rien faire, me poser là dans un coin que je chantais bien en me disant tiens, ici ça résonne plutôt cool, je vais me poser, on va voir ce qui se passe. Et puis j'ai utilisé un petit outil que j'ai découvert dans un podcast de London Real que je vous invite à découvrir si jamais. Vous n'avez pas encore sauté dessus, alors que j'en ai, je pense, parlé pas mal de fois, parce que c'est vraiment super cool. Un podcast où, pareil, il y a des interviews de plein de gens différents, super inspirant. Bref, une personne qui était interviewée est une personne qui est experte en médecine chinoise et en lecture énergétique, et qui connaît vraiment la circulation énergétique, le qi, comme ils appellent ça là-bas en Chine, et qui expliquait qu'en gros, on est tout le temps en train d'accumuler des pensées qui peuvent être lourdes, donc des pensées plutôt négatives. Et ces pensées lourdes, elles finissent par un peu tourner en rond dans notre tête, et puis ça devient un petit peu notre aliment de pensée principal, et on a l'impression des fois que c'est coincé là-bas dedans, et que ça n'arrive pas à sortir, et que cette énergie lourde, elle nous gangrène un petit peu à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est super d'aller se mettre dans la forêt, parce qu'en marchant dans la forêt, en se concentrant sur les éléments de la nature, et ben, ce qui se passe, c'est que les pensées se modifient aussi et qu'il y a un peu une décharge, comme si ces pensées pouvaient retourner à la terre. Et du coup, cette amie donc de London Real, ce médecin chinois, explique qu'il y a un exercice tout simple pour arriver à décharger directement dans la nature et dans la terre ces pensées et ces énergies négatives. Bah c'est de s'asseoir sur une pierre, les deux pieds nus, bien ancrés dans la terre. Ensuite, on met les deux mains sur les genoux, avec la paume qui est bien fixée sur la pointe des genoux, et on laisse venir les pensées négatives habituelles, et puis les boucles mentales qui viennent tout le temps. Et puis, au lieu d'en faire quelque chose intellectuellement. L'idée, c'est juste de fermer les yeux. Et puis, au lieu de se dire qu'il faut les laisser passer ou les enlever ou penser à des choses positives ou quoi que ce soit, ce qui peut être très, très stressant aussi pour l'esprit de devoir changer les pensées, on les invite juste ces pensées à descendre dans les mains et dans les genoux et puis dans les pieds et puis au final dans la terre. Et donc on laisse venir les pensées, on laisse venir les boucles mentales négatives et puis on les laisse descendre et on les laisse descendre et on les laisse descendre, on les laisse descendre. Et au bout de quelques minutes, on finit vraiment par sentir que on a déjà gagné en calme, c'est un peu une forme de méditation au final, et que on a moins de pensées négatives justement, et que c'est moins lourd, et qu'on commence à pouvoir avoir des pensées du type juste de remercier cette circulation qui vient de se passer, le fait que ça ait pu descendre. Faire circuler l'énergie, c'est quand même assez rigolo, cette capacité qu'on peut avoir dans notre tête ou dans notre corps à le faire. Donc on peut remercier notre tête, on peut remercier le corps, on peut remercier la Terre d'accepter aussi toutes ces énergies négatives au final, parce que pour nous, elles nous font pas du bien, mais si jamais ça circule dans la Terre, c'est que ça doit apporter des choses aussi à la Terre, parce qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, quoi, c'est juste une interprétation, donc voilà, ça doit être bénéfique. Et puis voilà, on continue à penser, à remercier tous ces trucs, et on laisse descendre. Et puis arrive un moment où j'ai senti que c'était fini, quoi. C'est un peu ce qu'il dit, au moment où on sent que c'est bon, quoi. On est arrivé au bout de cette décharge qu'on devait faire, enfin de ce moment de décharge, et puis on peut remettre les chaussures et puis continuer à marcher. Et voilà, on se sent léger et plutôt bien. Et pour conclure sur cette lecture du monde, sur ce petit flash lecture du monde, je pense que analyser. Comme je peux le faire et comme je vous ai partagé ça juste avant, comment ça se passe de manière globale sur la planète. J'aurais pu parler aussi de ce qui se passe au Brésil avec les 3 stades de foot par jour qui sont rasés de la surface des forêts. Plein de trucs comme ça qui peuvent donner l'impression qu'on est dans un monde de fous et que c'est un sacré bordel, qu'on voit pas trop comment on s'en sortir. Ben, en fait, c'est clair que quand on a le focus et la pensée sur des choses qui sont globales et qui sont aussi grosses, et qu'on est dans le rationnel à fond, ça peut devenir très très lourd. Donc l'idée, c'est d'alterner aussi entre des lectures du monde qui se font de manière factuelle et limite technique, et puis aussi derrière, des fois, une lecture du monde qui va se faire non pas par le cerveau et la réflexion, mais par le ressenti, quoi. Et arriver à se faire des pauses. Et d'aller se mettre justement voilà, les pieds dans la terre, les pieds dans la forêt, allonger dans un parc, prendre un bain, ce que vous voulez, ce qui pour vous est le mieux pour que justement vous puissiez décharger vos pensées négatives, et puis les pensées lourdes aussi des fois, ou les pensées complexes, et on laisse tout descendre, et puis au bout d'un moment, on arrive à un état où là, on peut avoir une lecture qui est différente, parce qu'elle est beaucoup plus légère, des fois elle est beaucoup plus proche aussi, on va peut-être plus s'intéresser aux gens qui sont autour de nous, à ce qu'on a envie de manger, à si on a envie de bouger. Aux choses plus simples. Et puis après, rien n'empêche de repartir un peu dans des analyses du monde et puis derrière de revenir sur ces choses plus simples. Voilà. C'est peut-être un yo-yo comme ça à faire, une petite navigation pour explorer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit flash lecture du monde vous a paru intéressant. Si vous avez besoin de quelques sources pour appuyer un peu ce que je vous ai présenté là, quand je vous parlais justement de ce qui se passe un peu du côté de Facebook, de la Chine, du Brésil, tous les trucs un peu techniques. Le livre, Thermodynamique de l'évolution, vous le trouverez facilement. Si vous avez besoin quand même de plus d'infos sur le livre, je peux vous en donner aussi. Si vous voulez d'autres livres qui sont liés à ça, je peux vous en donner aussi. Puis j'aurai des millions d'autres trucs à vous partager, des millions d'autres analyses. Mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Merci de votre écoute. J'espère que c'était intéressant. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain flash lecture du monde. Et voilà, c'est fini pour ce flash. Petite conclusion très rapide, un peu comme à chaque fois, même si c'est pas un gros épisode d'interview, ça serait super si vous donniez des retours, ça serait également super que vous alliez mettre, que ça soit sur Spotify, Apple Music ou que vous voulez, que vous alliez mettre 5 petites étoiles ou un petit commentaire, tout simplement parce que sinon ça ne remonte pas en fait sur les plateformes et que si on veut faire remonter un petit peu ce podcast, voilà, faut un petit effort collectif. Donc, je vous remercie en tout cas déjà d'écouter et puis ensuite de partager. Prochain épisode, ça sera avec Flavien Charvet, qui est designer et qui est aussi poète à ses heures perdues, et qui est aussi mathématicien et qui est aussi très très curieux. Et c'est un moment que je voulais prendre le temps de faire un interview avec lui. Et c'est ce que je ferai dès demain pour vous y partager à la rentrée. Voilà. Il y aura aussi d'autres formats dès la rentrée pour cette saison 2. Il y aura un peu plus de musique. Il y aura aussi un peu d'improvisation, peut-être un peu plus d'histoire. Voilà, des contes aussi, pourquoi pas. Je sais pas. On va expérimenter aussi dans les formats, comme on expérimente dans le contenu. Voilà. Eh bien, dans tous les cas, où que vous soyez, profitez de cette dernière minute pour vous, tranquillement. Et parce que c'est important de prendre le temps pour vous, et que moi, là, ça me permet de prendre aussi du temps pour moi. À laisser glisser tranquillement. Et puis sinon, vous pouvez aussi couper. Voilà, et on se retrouve très rapidement. Allez, à bientôt.